Bonjour et bienvenue dans l'émission « Les tisseuses et les tisseurs du vivant ». Cette émission est consacrée aux paysans et aux paysannes, aux artisans et aux artisanes, habitants et habitantes des Vosges, de la plaine aux montagnes. Ils et elles transmettent ou apprennent, se réapproprient des savoir-faire perdus, réinventent les traditions populaires. Ils et elles créent un monde plus juste, en cohésion avec leurs convictions écologiques, en symbiose avec les autres vivants. De leurs mains, ils et elles transforment la matière, tissent des liens entre humains et humaines, plantes et insectes, animaux et minéraux. Les tisseuses et les tisseurs du vivant, des métiers et des savoir-faire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il y a 2 semaines, nous sommes allés visiter l'atelier des fermenteurs, aussi appelée la brasserie Katsu, une brasserie coopérative qui produit des bières et des kombucha biologiques. Le ou la kombucha est un thé fermenté dont certaines légendes font remonter l'origine jusqu'à avant notre ère, en 221 avant Jésus-Christ, alors que l'empereur Qin Shi Huang de la dynastie Qin, en quête d'immortalité, aurait goûté ce divin che, une sorte de breuvage divin. Il est mentionné pour la première fois en 1913 dans une étude scientifique russe par la chercheuse Batchungskava, une biologiste qui étudiait des cultures de bactéries de plusieurs régions russes. Le kombucha y était consommé par une grande partie de la population comme tonique pour la santé. Il était appelé champignon de thé ou petit champignon. La boisson se propage ensuite dans le monde à partir des années 60, alors que de nombreux ouvrages paraissent sur ses caractéristiques et ses vertus. Il est particulièrement apprécié des communautés alternatives et hippies dans les années 70 en Europe et aux États-Unis. Le kombucha n'est pas à proprement dit un champignon. Il est préparé à partir d'une culture symbiotique de bactéries et de levures plongées dans une solution sucrée à base de thé. Le symbiote est appelé mère de kombucha ou champignon. C'est une membrane visqueuse de quelques centimètres d'épaisseur que l'on pourrait prendre pour une algue ou une méduse. Aujourd'hui, de nombreuses personnes brassent elles-mêmes leur kombucha. Quant à la bière, elle nous est davantage familière puisque c'est l'une des plus anciennes boissons alcoolisées au monde. Elle est obtenue par fermentation alcoolique d'un moût de produits végétaux comme l'orge, le maïs, le riz. Toutefois, malgré sa familiarité, nous connaissons mal le savoir-faire et les étapes nécessaires à sa production, et notamment le brassage, la pratique à l'origine de l'appellation brasseur et brasserie. À l'atelier des fermenteurs, nous avons assisté aux différentes étapes du brassage. Pierre nous a parlé de la fermentation, de l'action des levures, des maltes et des houblons, des différentes recettes pour confectionner les bières et les kombucha, des arômes épicés ou floraux apportés par les céréales. De l'empâtage en passant par l'ébullition et la fermentation jusqu'à la mise en bouteille, découvrez avec nous le savoir-faire d'une microbrasserie artisanale vosgienne. Bonne écoute!
Alors moi je suis Pierre Decombe, j'ai 36 ans et voilà, je suis le président de la société coopérative de l'atelier des fermenteurs et associé et salarié. Alors, maintenant on s'appelle atelier des fermenteurs, c'est le nom de la coopérative qui abrite entre guillemets deux brasseries, la brasserie Kombucha, donc ABS Kombucha et brasserie de Katsu pour la bière.
Là vous êtes dans le magasin. Donc avant il y avait tout le stock ici, on est en train de le transférer dans l'atelier, que vous allez voir ensuite, dans le but d'en faire un petit bar, donc ça va être dans les projets à venir. On a dans cette petite pièce là notre stock de grains, on s'attend pas à avoir un stock de grains dans un bureau, mais là c'était un peu, on n'avait pas trop le choix. Donc en fait tout notre malt est stocké là, donc principalement ça vient de Maltala qui est une micro-malterie en Alsace. Donc, qui travaille en bio et en circuit très court, vu que Lise, qui a la malterie, malte le grain qui est cultivé par ses parents, tout simplement. Voilà, et on travaille également pour les grains un peu plus spéciaux, pour les maltes spéciaux, on travaille encore avec Weiermann, qui est une malterie en Allemagne également, et en bio, donc du coup, ça voyage pas beaucoup pour venir jusqu'à ici.
Donc la brasserie de Katsu, c'est celle qui est née en premier, donc avec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'installation de Thomas et Alice en 2019. Mai 2019, ça va faire 5 ans en fait. Donc ils avaient à cœur de faire des bières bio, comme les bières qui leur ressemblaient en fait. L'idée c'était de brasser, mais non seulement en bio, mais d'avoir une démarche un petit peu le plus écologique possible en faisant venir des denrées, des matières premières le moins loin possible. Donc, maintenant on travaille ponctuellement avec des houblons français, on commence à tester d'autres houblons français, dernièrement on a testé un houblon mosellan, donc on ne s'interdit pas de travailler avec du houblon français. Simplement les recettes principales telles que nos deux bières blondes et notre bière ambrée, c'est très difficile de changer le houblon sur ces recettes là parce qu'elles changeront du coup l'aromatique de la bière. Donc. Alors là on ne voit pas trop parce que c'est concassé, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Ouais. Voilà. Ça, c'est les maltes concassées. Et donc, le but du concassage, c'est de rendre l'amidon plus, entre guillemets, plus assimilable, plus transformable facilement. Si c'est pas assez concassé, il y aura un moins bon rendement en sucre. Si c'est trop concassé, ça peut gêner à la filtration, par exemple. Si la farine est trop fine, l'écorce va disparaître, parce qu'il faut savoir que les petites écorces-là participent fortement à une bonne filtration en fait. Donc ça peut devenir pâteux, la bière aura un trouble aussi dû aux farines. Donc le concassage c'est aussi une étape assez importante.
Pour ce qui est de la brasserie,
on est en coopérative, donc comme je disais, société coopérative d'intérêt collectif depuis avril 2021. Et donc on a une multitude de sociétaires qui sont plus ou moins investis dans l'entreprise. Ça c'est dès le départ, ça a été... c'est pas ce qu'on cherchait forcément, mais on a quand même dans l'idée de dynamiser un petit peu d'avoir une gestion un peu associative. Et c'est un mixte entre une asso et une entreprise. On a une gestion, on a un bureau, donc un conseil coopératif, et selon les catégories de sociétaires, donc il y a des producteurs, il y a des bénévoles, il y a des consommateurs, et donc il y a les créateurs, donc qui sont une catégorie à part entière, donc Alice et Thomas, et les salariés, donc Flavien, Romain et moi-même pour l'instant. L'idée, oui, comme je disais, c'était d'avoir vraiment une transparence vis-à-vis de tout le monde, mais du coup... le faire par le biais d'une coopérative, on trouvait tous que ça avait du sens. Et donc du coup, chaque personne associée et sociétaire a une voix en fait, tout simplement, et cette voix-là ne dépend pas de son apport. Donc qu'on ait mis 20 euros ou qu'on ait mis 5000, ça change rien à son pouvoir, c'est plus le statut au sein de l'entreprise. Donc en étant salarié, j'ai évidemment plus de pouvoir qu'une personne qui est juste bénévole. Voilà. C'est ce qui change sur les statuts, mais c'est pas l'apport en capital qui prédomine. Mais oui, c'était un peu l'idée, et donc jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à avoir le côté coopératif et le côté dynamique qu'on voulait. Alors on est quand même présent dans pas mal d'assos, parfois on sert aussi bénévolement pour certaines assos également. On n'a pas réussi encore à avoir le dynamisme qu'on souhaitait, parce que déjà avoir une brasserie c'est énormément de travail, et donc développer l'activité principale c'était la priorité. Et c'est pour ça que maintenant en fait on est en train de développer, qu'on veut développer le bar à la brasserie, c'est dans l'idée d'organiser des événements culturels, donc ça peut être des concerts. On a déjà un petit peu réfléchi à ça, hein. Ça peut être des soirées autour des jeux de société, ça peut être aussi des soirées en partenariat avec des associations de protection de la nature, donc de sensibilisation par rapport à ça. Ça c'est des choses dont on est un peu près sûr que ça va se passer, mais dans l'idée on est ouvert à tous les projets. C'est aussi pour ça qu'on est une coopérative, c'est-à-dire que chaque sociétaire qui en a envie, il peut proposer des choses, il peut même organiser des choses à titre bénévole, mais avec le soutien logistique de la brasserie, si on estime que ça rentre dans nos missions et dans nos possibilités. Mais je pense que le bar, du coup, ça pourrait être un bon tremplin, parce que comme tout le monde sait, un bar, c'est un lieu de rencontre aussi, et du coup, ça peut être un bon prétexte pour faire venir d'autres choses. Voilà. Dans cette recette, il y a du malt d'orge, du malt de seigle, du malt de blé et de l'avoine.
Mmh. Les recettes, c'est vous qui les avez confectionnées ?
C'est Thomas, donc, qui a créé la brasserie il y a 5 ans avec Alice, qui a confectionné toutes les recettes de la gamme permanente actuelle. Et puis qui continue de toute manière à faire les autres recettes. Après, on est plus en concertation sur les recettes éphémères, mais c'est lui qui a créé toutes les premières recettes. et qui continue de toute manière de valider les recettes, c'est son job. Enfin, un de ses jobs dans la brasserie. Donc je vais parler déjà des bières. On a deux bières blondes différentes. On a la Katsu qui est une bière au seigle, qui va être une bière assez légère, plus sur des notes végétales et de céréales, avec une amertume qui sera présente, mais qui sera plutôt équilibrée, elle sera pas très amère. Ensuite, on a la Zobette, qui est une bière blonde également, qui est toujours assez légère en alcool et en texture, mais qui, elle, va avoir déjà plus de houblon. Le houblon va donner de l'amertume, et la variété de houblon qu'on a sélectionnée va avoir tout simplement un impact sur l'aromatique de la bière. Elle va avoir un côté très fruité sur des notes d'agrumes, de fruits exotiques un petit peu au nez. On peut avoir vraiment le côté agrumes, le côté bergamote en bouche. Donc voilà, c'est deux bières qui sont à la fois très, entre guillemets, similaires, mais qui sont très différentes en aromatique. Ensuite, on a la blanche à l'hibiscus, qu'on est en train de brasser en ce moment, qui va être une blanche rosée, pas sucrée du tout pour une bière rosée, plutôt acidulée, assez douce, pas d'amertume, et sur des notes assez fruitées qui seront emportées par l'hibiscus. L'hibiscus, on l'utilise en pétales séchées lors de l'infusion, c'est pas des arômes artificiels. Bah, le brassin, en fait, c'est la production en cours de bière. Quand on brasse, le brassin, c'est l'action de brasser de la bière. Au début, de brasser de l'eau et des céréales, enfin des maltes. Et ensuite, ça devient de la bière, mais après fermentation. Donc au début, il n'y a pas d'alcool et c'est pas de la bière. Donc c'est ici que je vais entamer un brassin tout à l'heure aussi. Et donc c'est là où se passe l'action de brasser, mais il y a encore la fermentation qui viendra jouer après l'action de brasser. Donc là, vous avez différentes cuves. Vous avez une cuve où on stocke l'eau qui va être préchauffée la veille. Donc là, ça a été branché hier. L'eau est prête à être utilisée. Vous avez cette cuve-là qui est la cuve d'empâtage, qui va servir pour mélanger les maltes concassées, qu'on aura concassées au préalable, et l'eau donc à une température bien donnée, pour donc après mélange que l'amidon donc qui est naturellement présent dans les maltes se transforme en sucre et passe dans l'eau, et donc ça deviendra après filtration un moût sucré. Voilà, donc sans moût sucré, il ne peut pas y avoir de fermentation, parce que vous savez que c'est dans le sucre que tout se passe, donc y compris dans les autres fermentations comme le vin ou même le fromage. Donc passé cette action, vous voyez, il y a un fond filtrant dans cette cuve. Donc là, ça va durer une heure, l'empâtage. On va démarrer tout à l'heure ensemble. Et passé cette heure-là, on va filtrer ce qu'on appelle la mèche, c'est-à-dire le mélange entre l'eau et les maltes. On va filtrer ce mélange-là au bout de cette heure d'empâtage pour transférer ça dans une cuve d'ébullition et ensuite stériliser le mou. Voilà. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va apporter les houblons. Donc les houblons qui auront deux actions qui vont à la fois servir de conservateur naturel pour la bière, qui vont intervenir pour l'amertume également, et également pour certains houblons avoir un potentiel aromatique. Donc après ajout de ce houblon, ça aura le rôle d'épice également et d'apporter selon le type de houblon des notes épicées, des notes fruitées. Voilà. Il peut y avoir plein de choses. Il y a 800 variétés de houblons différentes, donc il y a de quoi s'amuser. Alors l'empâtage, c'est l'action de mélanger l'eau et les maltes donc concassées. Et donc c'est pendant cette étape-là qu'il va y avoir la transformation de l'amidon en sucre. Et donc le sucre va passer dans l'eau. Et le mou, c'est le résultat de la filtration après empâtage. C'est le mélange de l'eau, des sucres et bien sûr selon les types de grains qu'on a utilisés. Vous allez avoir tous les arômes qui vont se transférer dans l'eau aussi. Ensuite, on a la Wairan, qui est notre bière ambrée, qui est une bière ambrée plutôt sèche, pas trop de sucre résiduel, pas trop de rondeur, un côté grillé, biscuité qui sera apporté par les maltes, et un côté très fruité sur des notes pêche et agrumes qui seront apportées par le houblon. Ensuite, on a la Serpentine, qui est une bière noire. Donc là, vous allez avoir un côté très... Si les gens qui connaissent la Guinness, par exemple, vous voulez avoir des notes très torréfiées, sans l'épaisseur que nous donne la Guinness, parce que la Serpentine est quand même moins texturée, donc un peu plus légère et plus facile à boire, et sur des notes de chocolat amer, de cacao. Voilà, la Guinness va plus se porter sur le côté café. Alors la Serpentine, il y aura aussi des notes de café, mais il y a aussi le côté cacao qui sera amené par le seigle torréfié, donc qu'on appelle le seigle choco dans le jargon. Voilà. Ensuite, il y a les 4 saisons. Donc les 4 saisons, c'est des bières éphémères. Donc là, l'étiquette changent tout le temps et les recettes changent tout le temps. Alors il y en a des fois qui reviennent parce qu'elles plaisent et puis qu'elles nous plaisent, donc on les refait, mais ça peut aussi nous servir de entre guillemets, de manière de tester des choses. Donc voilà, en ce moment on a trois différentes qui sont dont une blonde plutôt dans le style triple belge, donc ce qu'on appelle une impériale saison. On aura un lager, donc une fermentation basse qu'on ne brasse qu'en hiver quand il fait froid. Et donc là, ce sera un red lager, donc une bière ambrée. Et on a aussi une pils au houblon Mistral, qui est un houblon alsacien. Voilà, donc cette bière-là, c'est la deuxième année de suite qu'on l'a fait. C'est une bière assez légère en texture, qui est plutôt sur des notes végétales, de céréales, vraiment très 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 malte en fait, c'est le côté pils. Et ensuite le houblon Mistral va donner des notes florales. Voilà, c'est une bière assez simple. Voilà, mais on aime bien faire ce genre de bière, même si ça peut paraître très simple comme bière, c'est juste le côté saisonnier qui nous encourage à faire ça. On ne fait ça qu'en hiver parce qu'elle fermente entre 8 et 12 degrés, donc on a une pièce qu'on n'a même pas besoin de chauffer ou de refroidir, c'est voilà.
Donc là, vous avez des fermentations en cours, ici, et puis ici. Donc ces fermenteurs-là, on a brassé la semaine dernière. Ça va prendre environ 7 jours pour avoir une fermentation complète. Et ensuite, on va ce qu'on appelle laisser un temps de garde avant de l'embouteiller ou de la mettre en fût. La fermentation va générer de l'alcool, déjà, de l'énergie, donc c'est pour ça que ça peut chauffer également, et du CO2. Et c'est aussi pour ça que vous avez des bulles dans la bière. Là, au début, donc vous avez le CO2 qui va s'échapper par ces petits barboteurs-là. Donc quand vous allez embouteiller la bière, au début, elle sera plate. Mais quand nous, on l'embouteille, on travaille ce qu'on appelle en méthode champenoise, donc on fait exactement pareil que le champagne. On fait un sirop de sucre à l'embouteillage, donc qu'on ajoute à la bière pour qu'il y ait une seconde fermentation en bouteille, donc qui va durer elle aussi 15 jours environ. Et donc c'est durant cette fermentation en bouteille que le CO2 à nouveau généré par la fermentation en bouteille, lui va y rester séquestré dans la bouteille vu qu'on l'aura capsulé. Et donc c'est pour ça qu'il va se dissoudre dans la bière et créer des bulles quand vous la consommerez. Voilà. Sinon ce serait très plat ou il y aurait de très fines bulles quoi, en fait.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs féroles en caracolant de Prosit en scroll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de coffres. Amsterdam, c'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes, c'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent. Donne-moi la main, c'est plein d'horizons à vous rendre fou. Mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main.
Une fois qu'on a fini la fameuse ébullition, donc comme je dis, pour vocation de stériliser le mou, donc c'est à ce moment-là, comme j'ai dit, qu'on apporte les houblons, éventuelles épices, parce que tout à l'heure on va brasser une blanche rosée à l'hibiscus, et donc on apporte l'hibiscus lors de l'ébullition. Passé cette ébullition-là, il y a encore toujours pas de fermentation ni de levure qui sont intervenues en fait. Donc passé cette ébullition, on va refroidir le mou bouillant en passant par cet échangeur à plaque. L'échangeur à plaque, on va brancher de l'eau froide, le circuit d'eau à côté. Et ben juste, c'est un refroidisseur en fait. C'est l'eau froide circule d'un côté et le mou circule de l'autre côté. Hein, et du coup, par échange, le mou va se refroidir et puis l'eau froide va devenir chaude. Et c'est avec cette eau froide là d'ailleurs qu'on va re-remplir l'eau froide qui sera devenue chaude. Qu'on va re-remplir le tank d'eau pour le lendemain pour écologiser. Sur les bières, on a aussi toute une gamme de bières qui est en train d'arriver. C'est plus long parce que ça nécessite plus de travail et plus de. Il y a aussi l'aspect garde et vieillissement. Donc cette gamme-là est plus développée par Flavien, donc qui est arrivé dans la brasserie assez récemment, et Thomas. Donc c'est des gammes qu'on appelle de fermentation mixte ou de fermentation spontanée. Donc c'est pas des levures classiques qu'on utilise habituellement, et c'est pour ça aussi que la brasserie c'est pas ici qu'on fait ce genre de bière, et c'est aussi une gamme de bières de vieillies en barrique. Voilà, donc c'est beaucoup plus long à arriver forcément, donc il y a une qui va arriver. Le nom du produit c'est Sagar, donc en référence au pathologien, au scieur, donc voilà, tout simplement parce que c'est des bières qui sont vieillies en fût, donc souvent ça passe plusieurs mois, voire même plus d'un an en fût. Donc là on a une bière toute récente, une blonde qui est passée plusieurs mois en fût de Meursault. Donc là le vieillissement en fût va apporter toute une complexité qu'on trouve pas dans une bière plus classique. Elle peut amener des côtés boisés ou vanillés du chêne, des tanins. Elle peut aussi amener le côté fruité ou même le côté vineux qu'on avait selon le vin qui était auparavant dedans, quoi, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une gamme qui est un peu plus... qui est naissante, donc on n'a pas encore beaucoup de produits dessus, mais c'est en plein travail. Selon le type de levure, elles vont travailler avec des températures différentes. Donc on ne peut pas se permettre de mettre les levures dans un mou bouillant à 90 degrés. Elles seraient... tuer dans l'instant. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a une action de refroidissement, c'est pour favoriser le milieu de reproduction des levures, tout simplement. Et donc, après avoir refroidi le mou, on passe ce mou dans deux fermenteurs. Là, vous voyez ce que je vais utiliser tout à l'heure. Donc c'est dans ces deux fermenteurs-là qu'on va mettre le mou, et ensuite les levures, sur la fin, une fois qu'on commence à avoir fini le remplissage des fermenteurs. Voilà. Et passer justement ce transfert, les fermenteurs, nous on va les apporter dans cette pièce là. On va pas y rester très longtemps parce qu'il y a du CO2, vu qu'il y a des fermentations en cours, c'est ce qui a été brassé la semaine dernière. Voilà ce que j'ai à dire pour la bière. Après pour le kombucha, on a trois produits entre guillemets phares. On a l'original qui est une fermentation donc de thé vert sencha avec une petite aromatisation à l'eau florale de cater citronnée, qui est une petite fleur cultivée chez Alain au jardin de Bernadette, donc dont il distille. Et nous on récupère son hydrolat pour aromatiser, mais de manière assez subtile, le kombucha. Ensuite on a un autre kombucha au bleuet et au thym serpolé. Donc le thym serpolé vient toujours de chez Alain au jardin de Bernadette. Et le bluet, c'est du jus de bluet du Gaec Balandier au Germont Val d'Ajol. Voilà, donc ce sera un kombucha un peu plus fruité, avec une jolie couleur, donc en général il plaît beaucoup. Et enfin, on a un dernier kombucha, donc le 4 citronné, donc qui est sur une base d'un thé noir Assam, toujours bio bien sûr, et toujours une tisane des jardins de Bernadette. Enfin, c'est un mélange de d'herbes séchées cette fois en infusion. Donc on y trouve de la mélisse, de la verveine odorante, de la cater citron, mais en feuilles séchées cette fois, et de la dracocéphale de Moldavie, qui est une mélisse également. Et donc là, vous aurez des notes très citronnées, mais plus sur le côté végétal, voilà. Et ce sera un peu plus rond et que l'original. Et ensuite, on a toutes nos recettes expérimentales. Donc ça, c'est plus Romain qui se charge de la gestion du kombucha. Et donc on teste plein de choses. Hein. Comme j'en ai parlé, j'ai dit tout à l'heure, au thé de chai. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? On teste au jicha, on le fait assez régulièrement. C'est un thé vert grillé. Et sinon, là, dernièrement, on a fait un au Brimbel. On attend de voir ce que nous fournit la nature aussi. Voilà, on a fait aussi à l'abricot, je pense, quand il y a eu des abricots. Enfin, on attend la saison, encore une fois.
C'est quoi la différence ou les similarités dans la confection et la fabrication d'une bière et du kombucha? Parce que du coup, il y en a une boisson alcoolisée et une boisson non alcoolisée. Est-ce qu'il y a des similarités ou...
Ouais, il y a des similarités dans le sens où au début il y a quand même l'action de brasser, donc c'est-à-dire mélanger de l'eau. Donc le kombucha, vu qu'on n'a pas de moyen naturel d'avoir du sucre comme la bière, on a le grain. Bah, le kombucha, le thé n'apporte pas de sucre, donc il faut qu'on ajoute nous-mêmes le sucre pour créer un mousse sucré. Mais la base, en fait, l'idée de base, c'est-à-dire de fermenter un mou, elle est la même. Ensuite, la différence, c'est que les levures et les bactéries seront pas les mêmes, donc elles vont pas transformer le sucre de la même manière. Dans le kombucha, par exemple, les levures vont au départ fermenter le sucre et donc le transformer en alcool, sauf qu'ensuite, il y a d'autres levures et de bactéries qui vont transformer cet alcool en acide. C'est pour ça qu'au final, on n'a pas d'alcool ou c'est résiduel dans le kombucha, il y en a très 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 peu, c'est voilà, infime. Mais en fait l'action en elle-même ou même le mode opératoire il est très semblable, voilà. C'est juste on a au début une cuve dans laquelle on brasse, ensuite on transfère dans des fermenteurs pour qu'il y ait une fermentation et ensuite on met en bouteille, voilà. Mais il y a pas mal de similitudes. Ce qui change principalement, c'est vraiment les levures qui ne vont pas donner le même travail. Et après, la base de travail, on n'utilise pas de malt pour le kombucha, mais on pourrait très bien tester un kombucha à base de malt. Hein. C'est juste le goût va changer complètement, mais c'est possible.
En fait, j'étais en voyage en Amérique du Nord, et donc dans le Montana plus précisément, à ce moment-là du voyage, avec un ami. Et on a fait du woofing chez des Américains, des locaux, qui avaient une micro-brasserie de kombucha. C'est comme ça que j'ai découvert. Et donc le produit... déjà, en plus d'apprécier le produit, je m'étais dit que c'était vraiment une bonne alternative au soda, parce que c'est beaucoup moins sucré, parce que ça peut offrir plein de choses en termes d'aromatique. En fait, on peut faire ce qu'on veut avec le kombucha, on peut aromatiser un peu comme on veut. Et donc, quand je suis rentré, du coup, j'en ai discuté avec mon cousin et associé, donc Romain, et on a commencé à brasser ça. Au début, j'ai brassé chez moi, ensuite on a voulu tout de suite brasser plus et s'exercer parce qu'on a voulu finalement se lancer assez rapidement. Donc on a brassé très vite dans son garage à lui. Et donc Thomas qui venait de s'installer d'installer sa micro-brasserie avec Alice, nous a prêté un peu de matériel au départ parce que finalement c'est très similaire, hein, au niveau on brasse du thé, c'est des actions un peu similaires. Donc du coup c'est comme ça qu'on a créé petit à petit nos recettes, et puis c'est aussi comme ça qu'on a décidé de s'associer à partir, je pense, 2020 je pense, qu'on a décidé de s'associer avec Thomas et Alice et de monter une coopérative vu qu'on est en coopérative. Et donc c'est un peu l'histoire du kombucha finalement. C'était en voyage en 2018 que j'ai découvert le produit, je ne connaissais pas, je faisais du kéfir de temps à autre chez moi et je connaissais depuis tout jeune, mais le kombucha je connaissais pas.
Ah ouais, c'est plutôt familial du coup alors, parce que c'est quand même particulier comme goût quoi.
Ouais, c'est acidulé, donc c'est assez particulier, et puis il y a le goût de la fermentation, donc tout le monde n'apprécie pas. Après, c'est comme beaucoup de choses finalement, comme la bière artisanale, je pense qu'il y a 10-15 ans, il y a beaucoup moins de monde qui aimait, et puis qu'on apprend à l'aimer parce que le palais se fait à force de goûter à l'amertume ou à l'acidité, et puis finalement après on a de plus en plus de mal à goûter des choses industrielles parce que c'est plus sucré, voilà. Donc,
C'est vrai qu'on est surpris hein, quand on goûte de l'artisanal, qu'il n'y a, pas de sucre comme ça. On se dit qu'est-ce qui se passe, on est tellement habitué.
C'est différent, oui.
En fait,
Après, toutes les bières ne sont pas sucrées, ça dépend aussi du style qu'on veut brasser. Il y a des bières qui sont plus sucrées que d'autres. Et puis, mais nous, c'est ce qu'on aime faire. Après, il y a d'autres brasseries artisanales qui travaillent avec des bières un peu plus sucrées. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste. Nous, c'est le style qu'on aime faire, c'est différent.
Mais je me demandais si vous aviez le droit ou pas, parce que pour les plantes aromatiques, il n'y a pas trop le droit de dire ça, mais de dire un peu les bienfaits du kombucha. Enfin, qu'est-ce que ça apporte
Alors oui, on a le droit de dire les bienfaits, on n'a juste pas le droit de porter, de faire des allégations par rapport à la santé. On n'a pas le droit de dire que c'est bon à la santé ou qu'on va se soigner avec ça, c'est interdit. Et c'est normal, parce qu'on ne sait pas vraiment. Par contre, on sait que, comme tous les produits fermentés, dans le kombucha, il y a des probiotiques, et donc que ça va favoriser le transit intestinal. On sait aussi que la fermentation, ça génère des vitamines et des minéraux. Et on sait aussi que dans un kombucha, il y a 4 fois moins de sucre que dans un soda type cola, par exemple. J'ai pas cité de marque. mais vis-à-vis du produit fermenté en lui-même, on ne va pas donner trop d'allégations, mais c'est vraiment un côté, en effet, plus bien-être du fait des probiotiques qu'on trouve dans le kombucha et des vitamines et des minéraux qui sont générés lors de la fermentation.
C'est fou parce que c'est vivant quoi, comme produit.
Ouais, c'est vraiment un produit vivant, comme beaucoup de tous les produits fermentés. Et c'est ce qui peut, vous parliez tout à l'heure de la différence entre une brasserie artisanale et une brasserie industrielle, c'est aussi là-dessus que ça peut jouer. Donc ils vont bien entendu utiliser des levures, mais la plupart du temps, pour stabiliser leurs produits et pour le conserver dans le temps, parce qu'en fait ils ont une production bien supérieure, ils sont obligés de stocker, pas forcément chez eux, donc pour limiter les problèmes de conservation, parce qu'un produit vivant ça reste vivant, donc il y a toujours une partie d'incertitude aussi, eux ils vont pasteuriser que nous on pasteurise pas. Voilà, donc c'est la différence que moi je vois principale. Après il y a aussi beaucoup de brasseries, alors je vais pas en citer parce que je vais pas dire de bêtises, mais il y a aussi des brasseries qui ne brassent plus avec du grain, en fait ils vont utiliser des sirops de malt, du concentré, ou alors des extraits de houblon, mais il n'y aura plus vraiment le côté malt et houblon sur des brasseries vraiment industrielles.
Ça sent un petit déj des fois.
C'est bien.
On a mis tous les malts, il reste juste l'avoine qu'on met en dernier, parce que l'avoine, on le laisse un petit peu au-dessus, en fait, parce que c'est lui qui peut poser des problèmes de filtration, par exemple, du fait qu'il n'est pas des corses, et puis...
Mais il y a encore des brasseries industrielles qui travaillent pour autant avec du vrai malt et du vrai houblon.
Donc toi, c'est un savoir-faire que tu as acquis par la transmission, donc des personnes qui tenaient à la base les microbrasseries, c'est ça?
Oui, en fait, moi, ce qui j'ai appris donc avec Thomas, qui nous a appris à brasser, et ensuite, c'est une transmission. Et on apprend encore, hein, je veux dire, même tout le monde au niveau de la brasserie, on continue d'apprendre des choses, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir, vu que c'est au final de la chimie.
Là, je le mélange quand même aussi, mais sans trop aller chercher en bas. Encore, là, c'est une bière blanche, mais quand on brasse une bière noire ou une bière ambrée, ça sent vraiment, vraiment le petit déjeuner, quoi.
C'est pas la même chose du coup?
Non, on n'utilise pas les mêmes maltes. On utilise plusieurs maltes différents qui sont chauffés de manière différente, de manière à apporter des aromatiques différentes aussi à la bière et de la couleur. C'est ça qui donne la couleur à la bière, c'est les maltes.
Le malt, on va démarrer par le houblon, parce que le houblon c'est une plante. Qui donne des belles fleurs et des jolies cônes, que vous avez peut-être déjà dû voir, qui va se rapprocher un peu du... c'est une vigne, en fait, ça pousse un peu comme une vigne, ça se palisse, et puis il y a des pieds. Il y a 800 variétés environ dans le monde entier. C'est une plante dans la bière qui est utilisée, pour la conservation, mais aussi pour l'aromatique, donc au même titre qu'un cépage dans le vin, le houblon peut avoir vraiment un impact sur le côté aromatique de la bière. Voilà. Et donc, selon la variété et selon l'endroit où il est cultivé, le terroir, ça change aussi. Le malt, c'est un peu plus compliqué. C'est déjà un produit un peu transformé, vu que c'est des céréales qui ont été, dont on a démarré une action de germination, c'est-à-dire qu'on a trempé pour pouvoir... que le grain se coupe en deux et commence à germer. Et cette germination-là a été stoppée. Donc elle avait pour but de libérer les enzymes qui ont participé à la transformation de l'amidon. Et donc ensuite, cette action de germination, elle va être stoppée ensuite par le séchage et par ce qu'on appelle le touraillage, donc c'est-à-dire la chauffe de ces céréales. Et donc la chauffe des céréales va être différente selon le malt qu'on veut obtenir. Donc plus le malt va être blond ou pâle, moins il va être chauffé, et c'est ce qu'on appelle les maltes de base. Donc il y a plusieurs sortes de maltes de base, mais ils vont apporter l'essentiel du sucre, enfin des sucres dans la bière. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les maltes spéciaux, donc les maltes qui vont être beaucoup plus chauffés, donc qui vont être plus colorés, qui vont apporter des couleurs à la bière, donc dans les bières rousses, ambrées, ou même bières brunes ou noires. Et donc ceux-là, ils sont à utiliser avec parcimonie, parce que déjà, ça peut donner une bière pas très bonne si on en met trop, et surtout, ça amènera beaucoup moins de sucre. Donc voilà, il y a plusieurs maltes différents, les maltes de base et les maltes spéciaux.
Enfin, c'est un peu à la croisée entre l'artisanat et l'agriculture. Comment vous définissez par rapport à ça, justement?
Nous, on est vraiment dans l'artisanat. On cultive pas. Après, je sais qu'il y en a qui font... qui cultivent... Enfin, il y a vraiment des brasseries qui ont la démarche et de cultiver leur orge, et de le faire malter. Le plus souvent, ils ne le maltent pas eux-mêmes, mais ils vont quand même le transformer au final. Donc là, on est vraiment sur une démarche complète agricole et artisanale. Nous, on est vraiment sur de l'artisanat, on fait pas d'agriculture, voilà. On a des petits fruits, mais je veux dire, c'est quand même dérisoire. Voilà. Thomas et Alice avaient déjà fait le choix de la bio, enfin du label bio, au moment de leur installation. Après, on partageait tous ces valeurs déjà depuis plusieurs années, parce que Romain et moi avions déjà eu des projets, justement, d'agriculture en bio, et du coup, c'était déjà quelque chose qui nous animait avant, et c'est aussi ce qui nous a fait nous rassembler. Après, on sait très bien que ça fait pas tout, le label bio, donc c'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir une autre démarche un peu plus poussée au niveau écologique, donc de faire attention d'où viennent les matières premières et pas seulement dire c'est bio, donc c'est forcément bien, parce qu'on peut faire venir des houblons de l'autre bout de la planète en bio, hein, ce sera moins bio, c'est tout. Mais voilà, c'est plus une recherche de cohérence. Alors après, on n'a pas du tout la prétention de tout bien faire, mais on essaye en tout cas dans une direction d'être mieux, d'aller voilà, toujours de faire nos choix en fonction de ça. Alors, ils ne sont pas toujours évidents à faire, comme on parlait de la consigne tout à l'heure, c'est aussi un choix où il faut regarder au niveau économique si ça ne peut pas apporter atteinte à l'intégrité de l'entreprise. Donc il y a aussi ces choix-là qui ont dû être faits. Après, c'est plus une question de bon sens et d'essayer de trouver les solutions, de récupérer l'eau, pourquoi pas essayer de récupérer l'eau de pluie, en faire quelque chose un jour, pourquoi pas essayer de récupérer le CO2 qui est émis. Enfin, tout ça, c'est des choses que on sait que ça peut être un jour un axe de développement et de réflexion. Alors après, ça génère aussi beaucoup de changements sur l'habitude de travail et tout ça, mais voilà. L'écologie, c'est aussi une question de réflexion par rapport à se poser la réflexion peut-être de mieux consommer, de consommer différemment.
J'étais un pays humble et beau, j'étais une terre nourricière. J'étais un pays humble et beau, des percherons, j'étais le berceau. Ce n'était pas un pays facile, il fallait vouloir travailler, mais on était récompensé, et comme le cidre des altérés. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. On était dans les chemins creux, sans lasser les amoureux, les rossignols des alentours, leur sifflaient des chansons d'amour. Avec les branches de sureau, les enfants faisaient des flutiaux. Existe-t-il un seul ruisseau qui n'ait pas fait tourner le moulin à eau? C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. Les techniciens sont arrivés, les techniciens ont ordonné aux paysans manipulés, toutes les haies ils ont arrachées. toutes les collines ils ont rogné, toutes les mares ils ont bouché, mes verts prairies ils ont drainé, l'Europe verte m'a torturé. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. La terre d'ici c'est ma peau, et elle la tenait fermement, elle s'envolera avec le vent, elle se dissipera dans l'eau. Et quand l'herbe aura disparu, de quoi vivront les troupeaux? Craie et roche apparaîtront comme des eaux qu'on met à nu. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. Braves gens que j'ai nourris, sous la contrainte m'ont trahi, aujourd'hui ils me mortifient, à cause de l'Europe du profit. Mais un jour les fleurs pousseront, toutes les haies replanteront, et les pommiers refleuriront, sans sa part de pays percheront. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. Mais gare à vous gens de Paris, car toute gloire est éphémère, et le pouvoir ne dure guère, les gens d'ici l'ont bien compris. Et alors à l'abri du vent, le perche et les percherons en liesse, connaîtront l'éternelle jeunesse et vivront mille et mille printemps. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent.
Vous travaillez aussi avec beaucoup de producteurs et productrices locaux. Comment vous les choisissez et pourquoi ce choix?
Pour le kombucha, on utilise toutes nos aromatiques viennent... de producteurs assez locaux et bio. C'est un choix qu'on a voulu dès le départ en limitant le choix du local. On sait que par exemple le thé, c'est pas du tout local pour le coup, ça vient de, le nôtre principalement vient de Chine, et donc tant qu'on n'a pas trouvé une meilleure solution, on s'était dit qu'au moins l'aromatisation on ferait rien de venir d'autre de loin, et donc du coup pour l'instant c'est très porté sur des... Après c'est aussi fait partie aussi des missions entre guillemets de la coopérative, dynamiser la vallée, enfin les alentours, c'est aussi faire participer les acteurs économiques du coin, donc du coup ça avait du sens. C'est vrai que par exemple sur un exemple tout bête, mais c'est dans les boissons non alcoolisées, c'est souvent les choses citronnées qui plaisent beaucoup. On s'est dit, on va pas trouver du citron, à part le citron de menton, il n'y en a pas beaucoup. Donc, puis ça voyage déjà pas mal. Donc on a essayé de compenser avec des plantes qui pourraient évoquer un petit peu le côté citronné.
Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce métier? Tu as une pratique particulière que tu préfères
Non, justement. Si je pratiquais que tout le temps la même chose, je m'ennuierais, j'aurais arrêté depuis longtemps. Et donc, non, ce qui me plaît le plus, c'est justement la variété de choses qu'on peut être amené à faire dans ce métier. Donc, aussi bien brasser de la bière, embouteiller, c'est pas la chose la plus, passionnante du monde, mais le fait de le faire avec d'autres actions, d'aller vendre son produit... Être fier de vendre son produit, c'est aussi une chose qui est intéressante. Alors, mais malgré tout, faire des marchés, plein de marchés tout l'été, ça peut être fatigant aussi. Donc c'est vraiment un équilibre entre toutes ces tâches-là qui fait que c'est intéressant.
À un certain niveau, et je pourrais commencer à allumer le gaz qui commencera à chauffer tranquillement le mou pour arriver à ébullition. Alors je ne sais pas quelle heure il est, mais encore un petit peu de temps, 14h47.
D'ici une heure, ce sera ébullition. Et après l'ébullition, il y a encore une demi-heure d'ébullition. Et ensuite, environ trois quarts d'heure de refroidissement pour porter dans la fermentation. Voilà. En démarrant à 13h30, j'aurais fini aux alentours de 5h30. Plus une grosse demi-heure de nettoyage.
Tu disais que tout le monde brasse chacun son tour. Est-ce que c'est important pour vous de donner naissance, voilà, chacun votre tour au produit à un moment donné?
En fait, ouais, je pense que c'est aussi pour ça qu'on veut continuer tous de brasser. C'est pour pouvoir, avoir une certaine forme de crédibilité, rester dedans et rester dans l'action et dans la production, vraiment à la genèse du produit, en fait, tout simplement. Donc c'est important pour ça, et puis c'est parce que c'est agréable de brasser, en fait. On parlait des odeurs tout à l'heure, c'est vraiment des choses assez sympas. C'est important qu'on puisse tous continuer à le faire plus ou moins ponctuellement.
Merci d'avoir écouté cette émission. Vous pourrez retrouver les bières et le kombucha de la brasserie Katsu sur leur site internet. Bonne journée ou soirée sur Radio Gemozo.